Je cherchais un texte sur la résistance ce matin et le plus beau que j'ai trouvé, il parle d'émerveillement. C'est un texte de Belinda Cannon qui s'appelle « S'émerveiller » justement et voici ce qu'elle y écrit. « Parfois le silence règne, nous sommes paisibles et concentrés, la lumière est belle et notre regard vigilant. Alors l'émerveillement nous saisit. D'où vient ce sentiment fugitif ? Il ne résulte pas forcément de la nature grandiose de la situation ou du spectacle. Souvent, c'est un état intérieur favorable qui nous permet de percevoir une dimension secrète et poétique du monde. Soudain, on vit pleinement, ici et maintenant, dans le pur présent. Cette disposition intime est une conséquence du désir de vivre et de la faculté de joie. Le risque de l'enténébrement a frappé notre époque, mais il faut d'autant plus persister à évoquer l'émerveillement. Car la construction du bonheur, le respect de chaque vie précaire, précieuse et susceptible d'accueillir les plaisirs en même temps que le labeur, sont la marque de notre conception de l'existence. Ici est notre séjour. Y porter un regard attentif est le plus sûr remède contre le nihilisme. Belinda Cannon s'émerveillait et résistait.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui résiste par sa langue, sa voix, sa lumière. Il est à mon avis l'un de nos plus grands poètes et écrivains, auteur de Lettres pourpres, Une petite robe de fête, Le très bas ou encore L'inespéré. Pierre, c'est le nom de son nouveau livre, un court texte consacré au maître de l'outre-noir, Pierre Soulages. Bonjour Christian Bobin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avant toute chose, résister, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour vous ?
C'est respirer. Résister, c'est prendre appui sur ce qui existe vraiment et ne pas donner la moindre chance au nihilisme partout régnant. Et c'est résister, s'appuyer sur quelque chose qui existe. Et je pense que peut-être c'est paradoxalement choquant, je pense que ce qui existe vraiment, c'est la bonté. La bonté, la lenteur, l'attention, ce sont des choses qui ne sont pas marchandes, qui sont vitales pour chacun et qui continuent d'être diffusées par des gens qui n'ont pas de visage, que l'on ne connaît pas forcément, qui sont ici ou là et qui sont les vrais piliers du monde.
L'émerveillement aussi.
Pardon ?
L'émerveillement aussi.
L'émerveillement, oui. Le texte que vous avez lu de Belinda Cannon parlait d'enténébrement et dans les ténèbres, il y a des éclairs. Et l'émerveillement, c'est ce fait de ces éclairs-là.
Quand est-ce que vous avez pris conscience, Christian Bobin, que s'émerveiller, c'était résister, c'était toujours, d'une certaine façon, désobéir ?
Au berceau. Au berceau. Au berceau. Je ris et je ne ris pas, parce que je pense que dans le peu de souvenirs, dans le non-souvenir que j'en ai, mais qui existe quand même, je me revois, comme chacun de nous, couché sur le dos, avec une impossibilité de se mouvoir, et j'entends, avec ces, comment dire, avec les allées et venues souverains de la mer, et aussi sa disparition parfois, le secours qui nous est donné dès le début, c'est de la lumière, c'est le jeu des ombres sur un plafond. Ce sont des choses extrêmement simples, radicalement simples.
Oui.
Et ce sont ces choses-là que je continue de chercher dans le langage.
Ça suppose effectivement une manière de regarder, s'émerveiller, une discipline du regard. Regarder, est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend pour vous ?
Est-ce que ça s'apprend ? Ça s'apprend. Il faut apprendre à s'éloigner un tout petit peu de soi, étrangement, pour se retrouver. Il faut apprendre à faire un pas en arrière, quitter ses soucis, quitter les mauvais singes des soucis qui sautent sur vos épaules tout le temps. Quitter tout ça, l'ambition aussi, les projets. Laisser un tout petit peu tous ces fantômes, parce que de toute façon, ils vous retrouveront. Ils ont votre adresse, ils vous retrouveront, ils ne vous lâcheront pas comme ça. Mais les quitter momentanément, et tout d'un coup, vous n'êtes plus là, vous êtes juste un pur regard. Vous êtes un pur regard. Et dans vos yeux, c'est la vie la plus belle, quelle qu'elle soit, qui s'engouffre.
C'est d'autant plus intéressant dans un monde qui est saturé par les images, qui est saturé par les écrans aussi. Quel regard, justement, est-ce que vous posez, vous, sur ce monde où les images prolifèrent sans cesse ? Ce sont des singes.
Oui, ce sont des singes et vous savez les singes qu'on voit parfois dans les palais hindous en ruine. Ce sont des singes qui peuvent être féroces, qui nous mordent, qui ne nous lâchent plus, qui se jouent de nous. Et en vérité, ces singes sont sortis de nous. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à nous en débarrasser. Les images qui nous reviennent en force, c'est nous qui les avons conçues dans notre sommeil, dans le sommeil de ce que nous appelons la vie, et qui n'en est pas une en vérité. Ces images, elles sont... je crois qu'elles nous rendent aveugles. C'est très drôle. Plus
elles paralysent le regard, c'est passionnant.
Plus il y a d'images, moins on voit.
En fin de compte, Christian Bobin, qu'est-ce que c'est le regard pour vous? Le regard qui est central dans votre œuvre.
C'est la force incroyable de l'amour pur, mais lancé comme ça, lancé en avant de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui vous revient, ce sont des joyaux. Et le joyau peut avoir la forme d'un pissenlit, d'une herbe folle entre deux pierres, ou d'un livre, ou d'une phrase qui vagabonde dans un livre et qui n'attendait que vous pour s'illuminer.
Et sur un tableau de Soulages, par exemple?
Ce sont des tableaux très, très, très singuliers. Ils sont à part de toute la peinture parce que ils nous regardent. Ce sont des présences. Ce sont comme de grands personnages apparemment jansénistes, sombres, austères. En vérité, ce sont des donateurs de vie. Ils sont là. Je n'ai jamais été autant regardé que lorsque j'étais devant un tableau de Pierre Soulages. Et c'est une expérience que chacun peut faire. Il n'y a pourtant presque rien chez eux. La présence en question, elle est revêtue tout entière par une cape de noir. Dans les plis de ce vêtement, qui est un peu ample, il y a des éclairs, des lézards de lumière qui passent. C'est trois fois rien. Du goudron et un peu de clarté. C'est trois fois rien. Mais c'est une on revient à nous-mêmes. On s'aperçoit qu'on n'était pas là, en fait.
Alors, c'est une question passionnante que vous posez dans ce livre qui s'appelle Pierre et que vous dédiez à Soulages. Existe-t-il des œuvres d'art sans regard, Christian Bobin? C'est la question que je me suis posée, en fin de compte.
C'est une jolie question.
C'est-à-dire que si elle nous regarde.
Je crois que rien n'existe. Tout ce qui existe est regardé. Ce qui n'est pas regardé est laissé dans le malheur de la non-reconnaissance. Et c'est vrai sur tous les plans d'ailleurs. Est-ce qu'il existe une œuvre d'art sans regard? Je dirais. Parce que parfois je pense au musée quand ils ne sont plus hantés que par un ou deux gardiens, avec la petite luciole de leur lampe. Je pense que ces œuvres existent, continuent d'exister. Cela dit, elles ont besoin de notre humanité pour exister pleinement.
Eh oui, parce qu'effectivement, dans votre livre, vous parlez, pour ainsi dire, des œuvres d'art comme des personnes, comme des êtres vivants. Et si l'œuvre est vivante, Christian Bobin, et qu'elle nous regarde, ça fait du spectateur un tableau, une œuvre à part entière aussi, non?
Il n'y a pas de plus beau... Le seul spectacle qui ne nous mente pas, c'est un humain. C'est le visage en face de nous, c'est la charpente du corps, la tenue de la personne, la tenue d'âme de la personne.
Mais vous, si vous étiez un tableau, vous seriez quoi comme tableau? Quel serait son format, tiens? Ses couleurs, sa matière, sa texture, sa peinture?
Pourquoi pas une de ces petites herbes qu'on voit... Il y a un tableau de Dürer, par exemple, qui consiste en on peut pas faire plus simple, qui représente des herbes au bord de l'eau, des herbes un peu acérées, un peu à la fois souples et résistantes, pour reprendre ce mot.
Celle qui n'est ni tableau ni rien du tout dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, c'est la culture et son actualité qu'on ne peut plus voir en peinture. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 4 octobre?
Cette œuvre, la voici, 33 tonnes de bronze, d'acier inoxydable et d'aluminium, représentant une main tenant des tulipes multicolores.
Cette fois, c'est fait. Après les polémiques et malgré les critiques, c'est aujourd'hui qu'est inauguré le bouquet de tulipes de Jeff Koons, offert à la ville de Paris en, je cite, « soutien du peuple américain aux Parisiens et aux Français endeuillés par les attentats de 2015-2016 ». 34 tonnes, 13 mètres de haut, 3,5 millions d'euros, l'œuvre acidulée se dresse désormais immanquable dans les jardins des Champs-Élysées. Olé.
Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter.
Les gars, soleil.
Un petit tour du monde festival. Le quotidien français lance aujourd'hui la 6e édition de son festival annuel avec une programmation organisée cette année autour du thème Imagine. Rencontre, débat, spectacle. Jusqu'au 7 octobre, on pourra notamment y voir l'avant-première des Misérables de Ladjly, rencontrer Russell Banks ou Delphine de Vigan et débattre de l'avenir de la démocratie, du mieux consommé ou de la disparition de la classe moyenne. On aime. Les nuits sont Kim Shattuck, cofondatrice du groupe The Muffs et bassiste éclair des Pixies. La musicienne américaine s'est éteinte mercredi. Elle avait 56 ans, figure du rock alternative depuis la mi-temps des années 80. Kim Shattuck avait enregistré 7 albums de punk rock avec The Muffs, parmi lesquels on trouve les hits Nina, Sad Tomorrow ou Kids in America. Avec les Pixies, elle avait participé à la tournée européenne de 2013. Paix et respect.
On va déambuler dans Paris, mais c'est plutôt chouette, ouais, pour démocratiser la culture, l'accès à tout le monde. Ça permet aussi de voir d'autres œuvres, des œuvres vivantes.
Enfin, voyage au bout de la nuit blanche, c'est demain la 18e édition du rendez-vous nocturne et artistique francilien. Au programme, plus de 200 événements dans toute l'Île-de-France, avec grande parade musicale, course nocturne dans les musées ou tours de vélo sur le périph. Et nous, on va voir le troisième paradis de l'association Thanks for Nothing, qui investit la Cité des Sciences et de l'Industrie avec une performance artistique solidaire, environnementale. Ça, c'est de la balle. L'écrivain Christian Bobin, invité de Boomerang ce matin pour la parution de son nouveau livre Pierre, dont l'œuvre nous amène à nous interroger sur ce qu'est la création. Pourquoi les hommes créent-ils, selon vous, Christian Bobin ?
Sans doute par angoisse.
C'est ce que vous écrivez, hein. On ne crée que pour guérir d'une angoisse, arrêter à main nue les cavales de l'apocalypse fonçant sur nous. Mais de quelle angoisse est-ce que vous nous parlez, là ?
La crainte de disparaître sans être jamais apparu. C'est-à-dire, nous ne sommes pas si sûrs de nous-mêmes. Et la beauté nous assure de nous-mêmes. La beauté, c'est la seule mère qui ne fait pas défaut à ses fils. Jamais. La beauté nous prend charge. Le silence d'une œuvre d'art, le silence qui joue, qui passe comme un ruisseau entre deux notes de Bach, nous rassure profondément, invinciblement, irrésistiblement.
S'écrivait depuis plus de 40 ans, j'en conclus que cette angoisse, quand même, l'écriture n'est jamais parvenue à la guérir complètement.
Je pense que elle est la ressource de elle est source d'énergie.
Peut-être que vous cherchez autre chose que la guérison, en fin de compte.
Ben, écrire, c'est une maladie. Mais c'est une maladie qui est à elle-même son propre baume. Vous voyez ?
Un geste me rassure dans cette vie, un seul. C'est appuyer ma main droite contre le tronc d'un arbre ou la faire glisser sur le crâne rasé d'un livre. Qu'est-ce que c'est un livre pour vous ? Quel objet est-ce que c'est ?
Ah, c'est pas... Si vous me permettez d'être gentiment fou ce vendredi matin, c'est pas un objet. Un livre, qui a été pensé, qui a été aimé, qui a été mâché par son auteur, qui a été ensuite veillé par l'éditeur. Le papier aura été choisi, les correcteurs auront fait leur travail angélique d'enlever les ombres inutiles. Peut-être par grâce, le papier aura été cousu. Un livre, comme je l'entends, c'est le compagnon des jours, c'est le compagnon invisible des jours et des nuits que nous passons sur cette terre. C'est un homme, c'est une femme qui se tient là et qui se met non seulement à nous parler, mais mystérieusement, parce que ça, les grands livres donnent cette certitude, vous ouvrez un livre et il vous entend. Vous avez la sensation, la certitude, inexplicable que vous êtes entendu.
L'intérêt des livres, c'est qu'ils taillent nos yeux, qu'ils retendent la chair de nos âmes. Je lis pour être réduit à mon épure. Voilà ce que vous écrivez, Christian Bobin. Retendre la chair de nos âmes, tailler nos yeux, sont des images qui traduisent aussi une certaine violence, vous ne trouvez pas?
Oui.
Quelle violence peut-il y avoir à lire un livre?
Il y a c'est une violence de vie. C'est une violence qui est contraire et qui est guerrière contre la violence des marchandises et des pulsions. C'est une violence de vie.
Comme
l'éclatement du bourgeon, si vous voulez, au printemps.
La chair de nos âmes, qu'est-ce que vous appelez l'âme?
Vous avez à peu près 24 heures d'émission. On va essayer de réduire le format. On va essayer de faire tenir les 24 heures dans deux phrases,
en
d'accord?
En une phrase.
D'accord, en une phrase. En une phrase. L'âme est cette chose qui n'est pas une chose, qui est invisible, mais à partir de laquelle seuls nous pouvons comprendre le visible, et qui, cette chose, qui n'en est pas une, nous fait tenir debout, nous donne courage, force et folie d'amour. C'est un nom qui était jadis utilisé, qui était courant, qui était commun au XVIe, XVIIe siècle, et peu à peu, la cendre qui est sortie des usines, et de pire encore, a recouvert ce mot.
Dans votre livre, vous écrivez que certains ont une âme mais ne le savent pas, et que d'autres l'ont carrément perdue, échangée, contre un plat de lentilles et un peu d'applaudissements. Ce qui est pareil. Comment est-ce qu'on perd son âme, Christian Bobin?
À votre avis. Dites-moi votre avis.
J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous le donner, mon avis, ce serait terrible. Vous savez, je suis dans le péché depuis très longtemps. Contrairement à vous.
C'est dramatique. Alors, si vous êtes dans le péché, vous êtes très proche tout le temps du salut.
Et quand bien même on l'a perdu, cette âme, est-ce qu'il y a un moyen de la récupérer? C'est ça la vraie question.
Oui, mais rien n'est jamais... Je ne suis pas un homme d'église d'aucune religion. Rien n'est jamais... Évidemment que rien n'est jamais perdu. Rien. Jusqu'au bord du gouffre, jusqu'à rendre la petite monnaie de souffle qui se trouve dans nos poumons, à la rendre toute, jusqu'au dernier centime, jusqu'à cet instant-là, rien n'est perdu. C'est ce que j'éprouve. Donc...
Vous dites que l'âme nous a été donnée avant la naissance.
Oui. Oui.
Alors où était-elle, votre âme, Christian Bobin, avant que vous ne veniez au monde?
Je sais où elle était.
Oh.
Oui.
Dites-moi.
Je sais très bien où elle était. Elle tenait dans le sourire de mon père et dans ce je ne sais quoi de lumineux, de silex lumineux dans les yeux de ma mère. S'il n'y avait pas eu... Elle était entre les deux, vous voyez. Elle est née du sourire de mon père, qui était la bienveillance absolue. L'intelligence et la bienveillance absolue, j'entends par intelligence ce qui sort du cœur tout droit. Et puis cette petite lumière moqueuse parfois dans les yeux de ma mère. Je viens du frottement de ces deux matières-là immatérielles. Le sourire et les yeux.
Quelle beauté quand même. Comment voulez-vous passer un mauvais vendredi avec ça? On va reparler évidemment de poésie, d'écriture et d'âme. Juste après Nat King Cole, tiens, tant qu'on y est, autant passer le meilleur des vendredis, Boulevard of Broken Dreams en 1949. Christian Bobin, Boomerang.
I walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where gigolo and gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams. You laugh tonight and cry tomorrow, when you behold your shattered schemes. And gigolo and gigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams.
Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il a cet air de Forban qui vous invite aussitôt à la plus grande méfiance, car dans son œil bleu coquin, derrière son sourire menu fretin et sous ses airs badins, il se pourrait qu'il mijote un sale coup, poil à gratter, boule puante, poudre de perlimpinpin. On est quelque part entre l'apprenti sorcier Gandalf qui sortirait de chez le coiffeur avec son petit pull presque roulé. Ce matin, l'écrivain Christian Bobin, invité de Boomerang, pour Pierre, ce nouveau livre où vous nous racontez un voyage, Christian, celui où... où habite en fait Pierre Soulages, celui que vous effectuez une nuit de Noël depuis le Creusot jusqu'à Sète. Et au gré de ce trajet, vous êtes assailli par les souvenirs, les images, les bruits, les pensées, les fantômes. Et j'aimerais qu'on s'arrête un instant là où ce voyage commence d'abord, au Creusot, une ville qui vous a vu naître, que vous n'avez jamais quittée. Cette ville, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'y rester ?
Je ne sais pas tout à fait si j'ai choisi d'y rester, mais... Notez que j'ai accompli un voyage dans le temps quand même extraordinaire. J'habite désormais à 10 kilomètres à peu près, en forêt, en pleine forêt. Mais ça compte pas, comme disent les enfants, ça compte pas. Je suis resté au Creusot, je suis resté. Pourquoi ? Parce que quand tout est là, pourquoi aller voir plus loin ? Et parce que tout ce qui est là... Tout ce qui était sous mes yeux s'est révélé très tôt inépuisable.
C'est la même ville que Naguère ?
Vous connaissez ce vers très beau de Baudelaire, les villes changent hélas plus vite que le cœur humain. Et est-ce que c'est la même ville ? C'est une ville un peu blessée.
Le bruit, par exemple, Christian Bobin, le bruit de ce monde ouvrier qui vous persécutait de son bec d'acier, comme vous l'écrivez. Qu'est-ce qu'il est devenu ?
Il est plus secret, il est plus discret. C'est plus la ville. Si vous voulez, je suis né dans les bras. Je parle là de la ville elle-même, dans les bras d'une matrone en fer, avec une grosse poitrine de fer, avec des cheveux de gros platanes, et puis qui fumait sans arrêt, sans arrêt. La matrone des usines fumait sans arrêt, et elle était encore. Encore un petit peu très très active avec ses lourdes préoccupations à l'époque de ma petite enfance. C'est le Creusot qui a nourri, qui a jeté son acier dans la gueule du monstre de la Première Guerre mondiale. C'est les locomotives, les armements, les obus, hélas, ont été couvés dans cette ville et ont explosé dans le nord de la France. Et c'est ce qui a fait la puissance de cette ville, et c'est ce qui fait notre puissance, ça fait notre défaite aussi, tôt ou tard. Et aujourd'hui, elle est plus calme, elle a ses beautés, elle a son charme, évidemment. Mais vous savez, à la fois j'y reste et je n'y suis jamais, puisque écrivant, je suis partout. Comment on appelle ça le vous savez le coefficient carbone, comment on appelle ça le coût des déplacements, ouais. En carbone, ouais. Quand vous écrivez, c'est zéro. J'écris avec un feutre sur un papier blanc et je vais au bout du monde en restant là-bas.
Vous êtes seul, Christian Bobin?
Non, j'ai non, je suis pas seul, non.
La solitude ne vous fait pas peur?
Non, la solitude, pour moi, elle me fait pas peur. Comment est-ce que l'eau de la rivière pourrait faire peur à la truite? C'est son élément.
Et le silence, il est arrivé qu'il vous fasse peur?
Ah, oh, j'adore.
Pourtant, écrire, c'est le briser, le silence, non?
Ah non. Écrire, c'est parler à l'intérieur du silence. Écrire, c'est parler sans froisser le silence.
On fait un peu de silence tous les deux. C'est vous qui me l'avez soufflé, ce silence. C'est Glenn Gould jouant un peu des variations Goldberg de Bach. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous l'entendez?
Je suis devant cette musique, devant la montagne de cette musique, je suis mais tétanisé. On l'entend en arrière de ma voix. Il y a eu deux interprétations par Glenn Gould des variations Goldberg. Ça, c'est la plus tardive. Elle s'est jouée un an avant sa mort. Il a accentué la lenteur de son jeu. Et cette lenteur, ce quasi-silence, me renvoie à une il me renvoie au devoir commun que nous avons. Vous savez ce que c'est? C'est d'être des anges. Nous devrions travailler à être des anges. C'est ce que j'entends dans cette douceur presque insupportable. Presque insupportable.
Vous allez me faire pleurer, là. C'est de la résistance aussi.
Oui. Oui. Oui, c'est... Vous vous rendez compte? Écoutez. Le plus proche serait peut-être des gouttes d'eau sur une grosse feuille de nénuphar. La première pluie, la pluie naissante. Et cette finesse du jeu, cette démence très calme de Jean-Sébastien Bach, je crois qu'elle nous ramène ceux qui ont disparu, ceux qu'on a aimés et qui ne sont plus. Elle nous ramène notre propre cœur qu'on avait oublié, on ne sait pas trop où. Elle ramène absolument tout ce qui est essentiel. Et elle le fait sans donner la leçon, sans nous juger, sans nous forcer à quoi que ce soit. C'est un paradis, cette musique. Et vous savez à quoi vous reconnaissez le paradis? C'est qu'il n'oublie pas l'enfer. C'est qu'il ne le laisse pas en dehors de lui, il le prend, il prend tout.
Je vous ai demandé, Christian Bobin, de choisir un texte pour terminer cette émission, terminer avec votre voix. Qu'est-ce que vous avez choisi?
J'ai choisi un texte qui n'est pas de moi, qui est de Rosa Luxembourg. Comme on le sait peut-être, Rosa Luxembourg était une révolutionnaire qui a œuvré pour que les ouvriers de France et d'Allemagne ne s'entretuent pas dans la Première Guerre mondiale. Elle a été mise en prison pour ça, et puis ensuite, elle a été un peu plus tard, je crois que c'était en 1919, en janvier 19, elle a été tuée. Et on n'a jamais retrouvé son corps. Mais vous savez, je vais lire quelque chose qui est paradoxal. Dans le pire, la lumière la plus sûre arrive. Voilà, je lis cette lettre. C'est mon troisième Noël sous les verrous, mais ne prenez pas ça au tragique. Je suis calme, comme toujours. Hier, je suis resté longtemps éveillé. Je ne peux pas dormir avant 1h du matin, mais il faut que j'aille au lit à 10h. Alors, je me laisse aller à toutes sortes de rêveries dans l'obscurité. Hier, je me disais, n'est-il pas singulier que je sois constamment transporté de joie et sans raison? Me voici couché dans une cellule obscure, sur un matelas dur comme la pierre. Autour de moi, la prison est plongée dans un silence de mort. On se croirait au fond d'un sépulcre. Je suis étendu là, seul, livré à l'obscurité, à l'ennui, à l'hiver, et malgré tout, une joie étrange, inconcevable, fait battre mon cœur, comme si je marchais dans une prairie en fleurs sous un soleil éclatant. Au milieu des ténèbres, je souris à la vie, comme si je connaissais la formule magique qui change le mal et la tristesse en clarté et en bonheur. La vie chante aussi dans le sable qui crisse sous les pas lents et lourds de la sentinelle, quand on sait l'entendre. À ces moments-là, je pense à vous. J'aimerais tant vous envoyer cette clé magique qui vous donnerait accès à la beauté et à la joie en toutes circonstances, qui vous permettrait de vivre vous aussi dans un enchantement, comme si vous vous promeniez dans une prairie aux riches couleurs. Je ne prétends pas vous conseiller l'ascétisme, vous proposer des joies imaginaires, je vous souhaite toutes les joies réelles, tangible. Mais je voudrais simplement vous communiquer un peu de mon inépuisable bonheur. Ainsi, je ne m'inquiéterai plus à votre sujet et vous traverseriez la vie sous un manteau brodé d'étoiles qui vous protégerait contre toutes les mesquineries, contre la banalité et contre l'angoisse.
La voix de Rosa Luxembourg par Christian Bobin. Merci infiniment, Christian, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Pierre, votre livre vient de paraître aux éditions Gallimard. J'ajoute qu'un cahier de l'air n'est consacré à l'ensemble de votre œuvre, ce qui est l'équivalent de la classe et de la consécration. Merci à vous et à toute l'équipe de Boomerang cette semaine. Encore Lola Costantini, Perrine Malinge, Léonard Billot, Joséphine Duboulin, Pierre Martinerie et Jean-Baptiste Dibert. On se retrouve lundi tout de suite. C'est l'heure des médias avec Sonia de Villers, l'instant M, juste après ça.
Tout réveil au goût amer était un cauchemar, était un cauchemar. Oh non, c'était bien hier. J'ai les yeux si rouges et bombés par la nuit ou par les pleurs. Trahisé au mauvais rêve, j'aurais bien aimé. Leur vérité me tue, car la nuit a su me faire oublier. C'est les matins comme ça qui me font pleurer, dès mon premier regard face à la nuit solitaire que j'ai passée. Pleurer. C'était toi, avant t'étais à moi. Quelques heures ou quelques verres, et je dormirai, ou je dormirai jusqu'au prochain matin. Où es-tu? Y a ton odeur comme seule trace de ton corps. Où es-tu? Tes mains me manquent, et moi j'y crois encore. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Leur vérité me tue, car la nuit a su me faire.
Les matins, Angèle sur France Inter, et tout de suite c'est l'heure des médias avec Sonia.
On est là, Augustin.
À demain, à lundi, pardon.